CJSO 101.7 avec Luc Deloncourt. À deux, c'est mieux.
Bon vendredi tout le monde, bienvenue à deux, c'est mieux. Il sera en spectacle ce soir devant une salle comble à Sorel-Tracy. Et ce midi... il est devant beaucoup de monde à la Bouffe du
Fer. Je suis comme très touché. Il y a plein de monde, des beaux sourires, et puis très, très touché et gêné.
Christian-Marc Gendron, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien aussi. Tout vêtu de baseball, parce que t'es copropriétaire d'un club de baseball.
Oui, un baseball semi-professionnel. C'est du senior élite, alors c'est un gros niveau de baseball. C'est la Ligue de baseball majeure du Québec. Fait que c'est une belle, belle ligue. Et puis moi, j'ai comme investi dans cette équipe-là il y a peut-être 2-3 ans, là, pour les sauver un peu. Finalement, c'est une job à temps plein. Mais j'adore ça. Après ça, c'est bon. Il y a toutes sortes d'enjeux qui sont encore inconnus pour moi. Le délai avec des municipalités, c'est quand même quelque chose. Puis on a créé un OBNL avec lequel on fait des profits qu'on remet entièrement aux jeunes dans les Laurentides pour leur donner des équipements sportifs pour pas que les jeunes payent zéro, rien. Ouais, c'est ça, c'est le fun. Je suis content. Et puis ça marche bien, puis on a là des partenaires financiers qui se greffent à nous, parce que l'équipe a commencé à une certaine notoriété, puis tout ça. Fait que je suis assez fier. On a gagné l'organisation de l'année dans la Ligue de baseball majeure du Québec.
Alors que vous gagniez pas beaucoup de games l'année passée.
La pire fiche sur le terrain, mais dans les gradins, on est passé. Écoute, l'équipe est en difficulté, il y avait 35 personnes par match, maintenant il y en a 400 par match. Moi, je vise encore plus que ça, mais c'est déjà beaucoup déplacé, 400 personnes un mardi soir à Saint-Colomban, là. T'essayeras ça.
Es-tu le fan des expos qui a voulu s'acheter un club de balle?
Je suis fan fini des expos. D'ailleurs, demain, je m'en vais à l'Expo Fest à Laval. Puis... Non, je suis un fan fini des expos. Nostalgique, d'ailleurs, j'ai un scoop. Un méchant scoop. Je faisais un spectacle à Saint-Eustache il y a 6 mois peut-être de ça. Et puis, il y a un monsieur d'un certain âge qui vient me voir. Il dit, mon petit garçon, il dit, moi, là, il dit, toi puis moi, on aime les mêmes affaires. Tu fais 3 fois que je te vois en spectacle. T'es mon idole. Je dis, j'ai 83 ans. Puis là, il monte son manteau, puis ça manche de chemise ou de manteau, puis je vois un tatou des expos puis une clé de sol. Je dis, ben voyons, on aime vraiment les mêmes choses, monsieur. Puis c'est quoi votre nom? Il dit, oui, mon nom, c'est Fernand Lapierre. Okay. Ça, c'est le claviériste des expos qui jouait de l'orgue au Stade olympique et qui est venu me voir en show 3 fois. Il dit, je capote. Il dit, blablabla. Je dis, qu'est-ce que vous faites maintenant, monsieur Lapierre? T'sais, parce que moi, c'est grâce à lui que je fais de la musique. Mon père m'a amené aux expos, mais moi, je trippais sur le baseball, mais je trippais sur ce gars-là. C'était une bébite, il y avait plein de claviers partout, il y avait un micro, un headset, il faisait toutes sortes de styles de musique, puis il jouait de l'orgue pendant les matchs, puis ça m'a toujours fasciné. J'ai même fait une chronique là-dessus à Salut Bonjour, sur comment l'orgue est apparu dans les stades de baseball. Et puis donc, ben, quand j'ai vu cette rencontre-là, ben là, j'ai offert une job pour qu'il vienne jouer de l'orgue à tous les matchs des Cardinaux. Et puis, ah ouais, c'est un gros stunt. Écoute, Fernand Lapierre, pour moi, c'est une légende.
Alors, fait qu'il va jouer au game cet été?
Ouais, tous les matchs locaux. Puis même le 4 août, on a un match contre les anciens expos. Donc, c'est les Cardinaux, mes Cardinaux, contre les joueurs des anciens expos. Puis ça va être super le fun. C'est un événement caritatif. Les profits, on va les redonner encore aux jeunes. Mais il reste que pour le stun, ça va être incroyable. Puis Fernand Lapierre, je te dis, Luc, là, c'est une légende, ben oui. Ce monsieur-là. Là. C'est comme Diane Bibeau au centre, c'est la même chose. Mais c'est une autre époque. Et puis là, lui, il joue de l'accordéon dans des résidences de personnes âgées. Il dit, je suis à la retraite, puis tout ça. Puis là, j'étais gêné, mais j'ai dit, monsieur Lapierre, je vous fournis un chauffeur, je vous donne des tickets de saison pour vous, votre famille, vos petits-enfants, vos petits-petits-petits-petits-enfants. je vais vous fournir tout l'équipement que vous voulez, vous n'avez rien à amener, votre bière est gratuite, tout est gratuit, les hot dogs, ah ouais, donc.
Hey, je veux le gâter. Job, on commence à jouer
de l'homme. Il dit, mon petit garçon, tu me fais rajeunir de 20 ans. Ça lui donne quand même 63 ans, 20 ans plus jeune. Alors non, mais c'est un cadeau. Puis tu sais, moi, en fait, c'est ça, les Cardinaux, pour moi, c'est pas juste du baseball. Plus tard dans l'entrevue, je te raconterai pourquoi j'ai investi là-dedans, mais pour vrai, c'est du gros bonheur.
Piano Man 3, ce soir, qui a été annoncé alors que tu faisais encore Piano Man 2.
Ouais.
Donc, tu préparais déjà le troisième et dernier volet, c'est comme ça que tu l'appelles.
Ben là...
C'est la fin de la trilogie.
Ouais, ben là,
j'écoute... T'es plus sûr? Ça va être un quartet.
Non, mais c'est-à-dire que ma trilogie va se terminer là. Après ça, c'est parce que là... Je
suis homme de piano 1.
Ben moi...
Juste pour fédérer une trilogie.
Sincèrement, tu me connais depuis longtemps. Ah ouais. Hein? Fait que mon Piano Man 1, ça avait levé tranquillement, pas vite, mais ça a pris du temps. On est arrivé quand même à 30 000 billets vendus. Puis à la fin de Piano Man 1, j'ai participé à La Voix. Ça m'a comme donné une espèce d'accès au grand public, parce que le public des salles de spectacle me connaissait. mais pas le grand public. Et puis, puis j'ai bien aimé ça, faire la voix. Puis après ça, ben, y a des petites étincelles qui se sont semées. Arrive la pandémie, complètement arrêtée. Dans ma tête, moi, à la fin de Piano Man 1, j'étais en train de faire l'acquisition d'un piano-bar à Saint-Sauveur en disant à ma blonde Manon, je dis, c'est la fin de ma carrière. Hey, on a eu du fun. Et puis, on achetait un piano-bar à Saint-Sauveur. Puis moi, j'ai dit, les gens qui m'aiment, ils vont venir me voir là, tu sais. Et finalement, mais ça s'est pas passé comme ça du tout. Comme une semaine avant la pandémie, là, ma blonde a dit, hey, on vient d'avoir, on voulait avoir une petite fille, tout ça, mais en fait, on venait de l'avoir. Ouais, on venait juste de l'avoir. Et puis finalement, elle dit, qu'est-ce que t'en penses si on repousse ce projet-là, tu sais, mais moi, j'avais un local de rêve à Saint-Sauveur, puis ici, puis ça, puis... Ah, je dis, ah mon Dieu, mon amour, tu tues mon rêve. Hein?
C'est beau comme phrase, hein?
Ouais. Tu tues mon rêve. Finalement, ça a été la meilleure décision de toutes nos vies à Manon et moi parce qu'il est arrivé la pandémie. On aurait été une entreprise très, très récente. On n'aurait pas eu accès à aucune aide gouvernementale. Et puis, c'était des loyers très chers, tout ça. Donc, non, elle m'a sauvé. Ma
ça aurait fermé. Ça aurait probablement fermé.
Puis non, mais après ça, en fait, à la fin de Piano Man 1, ça commençait à grossir. Fait que je me suis associé à un ami gérant qui s'appelle Michel Graton. Puis là, avec lui, j'ai dit, ça te tente-tu, Michel, de m'aider avec la paperasse, l'administration, tout ça? Parce que ça s'est rendu trop gros, là, l'affaire. Puis il a dit oui. Bien, après ça, il a dit, ça te tente-tu, je te donne un coup de main aussi pour te trouver du travail.
Il t'en a trouvé?
Ça a marché. Piano Man 2, là, ça a été la folie furieuse. Puis là, Piano Man 3. Mais tu sais, moi, quand je sors un album, souvent, la pochette du prochain est déjà faite. Fait que c'est la même chose quand je fais un spectacle. C'est moi, je savais qu'après Piano Man 2, mon branding serait avec du verre, le piano serait en fait en hologramme. Là, tu sais, toute mon équipe disait, hey, calme-toi, là, nanana. Mais finalement, on en est là. Tu sais, puis piano, on arrive à 100 000 billets vendus, là, pour le c'est incroyable, là. C'est fou, hein?
C'est fou.
Pour un show de musique, là, c'est assez rare, tu sais. En humour, c'est plus commun, mais en musique, c'est très rare des
surtout
ventes de
billets. Surtout
présentement. Oui, tout à fait. Je veux dire, il y en a qui vendent beaucoup de billets, des Mario Pécha, des Guylaine Tanguay, c'est sûr. Il y en a, là. Mais
il n'y en a pas tant que ça.
Pas tant que ça, c'est ça. C'est pas si facile. Et puis là, grâce à ce succès-là, c'est sûr que... Je pratique tout le temps. Là, il m'est arrivé des opportunités. Récemment, j'ai fait un hommage à Michel Legrand avec un orchestre symphonique. J'ai mis 150 heures de pratique là, de piano. Puis c'était tellement loin de moi, puis tellement du haut niveau que même j'ai dit mon gérant, j'ai dit, on n'aurait jamais dû accepter ça. Ils m'ont surestimé. Puis il dit, oui, mais si tu passes au travers de cette épreuve-là, tu vas pouvoir tout faire après. Puis tu vas être étiqueté comme un chanteur qui se fait inviter par des orchestres symphoniques, mais en plus qui fait du Michel Legrand. J'avais pas calculé l'ampleur de de la grosseur de cette affaire-là. Mais finalement, là, mon gérant, on a fait une captation de ça. Là. Il y a de l'intérêt en Europe pour ça. Alors, tu vois, à la fin Piano Man 3, il y a beaucoup de choses qui me sont proposées déjà par Comédia, des comédies musicales aussi qui m'approchent. Je ne pensais pas. Moi, j'étais dans ma tête, ma carrière était finie. Là. Puis, tu sais, je veux dire, je suis très heureux de ça dans le sens que ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que dans ma tête, je veux ralentir, mettre du temps sur le baseball, m'occuper de ma femme puis de ma fille puis tout ça. Mais c'est pas comme ça que ça se dessine pour les 5 prochaines années. Là. tant mieux. Si vous aimez ça...
Dans Piano Man 3, là, pour ceux qui sont chanceux puis qui ont des billets,
oui.
Puis qui vont aller te voir ce soir ou qui vont aller te voir ailleurs au Québec parce que t'es en tournée, qu'est-ce qu'on retrouve? Je sais qu'il y a un hommage au crooner francophone. Est-ce que j'ai vu ça passer?
Oui, tout à fait. On fait quand même beaucoup de chansons d'un...
Qui n'est pas ton époque du tout. Là.
Non,
Raymond
pas
Bertillon
puis
Fernand Gignac.
Raymond Bertillon, Fernand Gignac, Claude Blanchard, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Moi, j'ai fait... Écoute, le dernier soir où Claude Blanchard a chanté sur scène, j'étais à ses côtés. J'étais dans mes débuts de carrière, en tout cas. Et puis, on avait passé une super belle soirée. Puis, il m'avait dit, avec ses grandes lunettes et ses grandes paluches, là, « Toi, mon petit garçon, tu sens tabarnak, où c'est que tu t'en vas? » Il m'a dit ça de même, là. Fait que, puis, à cette époque-là, je savais pas pantoute, puis je m'en allais. Fait que Mais de se faire valider par un monsieur comme ça, lui, il croyait en moi beaucoup. Fait que c'était des petites phrases clés. J'ai qu'en fait, aïe, aïe, aïe. Puis, c'est le dernier soir où il a chanté dans sa carrière, j'étais à ses côtés. Il est décédé quelques années après. Mais c'est un géant, Claude Blanchard. Alors, puis ayant travaillé au Casino de Montréal, j'ai côtoyé Fernand Gignac, Raymond Bertillon, je ne l'ai pas connu, mais je connais très bien son fils, Pierre Bertillon, un gentleman. Et puis, mes parents, mon père m'a fait grandir avec Nat King Cole, Tony Bennett, Dean Martin. Ma mère, c'était Aznavour, Beco, Raymond Bertillon. Donc, je suis en amour avec ces chanteurs-là. Puis quand je le fais dans le spectacle, je ne sais pas pourquoi ça marche plus que je pensais. Moi, je me dis ça va être peut-être un peu... C'est risqué d'aller là. Parce que, tu sais, je finis avec Human, là, que j'ai fait à Zénith. Là, mon show finit avec ça, là. Fait que Fernand Gignac puis Rag & Bone dans le même show. Faut être audacieux. Mais après
pas
ça...
Pas le temps qu'ils sont pas collés.
Non. Non, ils sont vraiment pas
ça,
collés.
Ça enchaîne bizarre. Donnez-moi
Human,
des roses,
c'est comme le
Human.
Deuxième rappel, tu sais. Comme okay. Si j'oblige les gens à faire un deuxième rappel. Vous le dites ce soir, ça va.
Il y a deux rappels, vous le savez, là.
C'est ça. Mais tu sais, puis Human, en fait, j'ai commencé à la faire après ma première apparition à Zénith, qui a changé ma vie, Zénith. Véro Cloutier, elle a changé ma vie à plusieurs instants. Tu sais, en 2014, mon album Irréversible tournait beaucoup chez vous, mais nulle part ailleurs. Et puis, puis finalement, ben, à un moment donné, Véro Cloutier, elle avait tweeté « Oh wow, voici ma chanson préférée du moment, la plus belle chose qui soit de Christian-Marc Gendron. » Puis moi, personne ne me connaissait dans cette époque-là. Fait que ça m'a donné du gaz. Puis mon album s'est mis à jouer plus à radio. Puis j'ai eu de l'appui de Rythme FM à Montréal, puis tout ça. Puis, alors, puis quelques années plus tard, Véro m'a demandé faire un gala Comédia pour elle avec des imitations. On m'avait jamais... Je veux dire... Moi, j'avais jamais pensé de faire un gala Comédia, certainement pas comme imitateur. Et puis, ça venait de Véro puis de Louis. Puis après ça, ils m'ont offert de faire la première partie des Morissettes que j'ai faite. Les 5-6 derniers shows des Morissettes, j'étais là en première partie. Et puis, ben là, récemment, après le lendemain matin de la première saison de Zénith, le lendemain matin, Véro Cloutier me textait sur mon cellulaire, disait « Hey, je pense que tu as aimé ma première saison de Zénith. Qu'est-ce que tu en penserais de faire la deuxième saison? » Fait que moi, c'est le lendemain de la première saison, je me faisais offrir ça par Véro. Tu peux comprendre bien que j'ai dit oui en tabarouette. Et puis, c'est le plus beau plateau de télé que j'ai fait dans ma carrière. Puis, la plus belle équipe de télé aussi, Dominique Anctil à la production, Alain Chicoine à la réalisation aussi. C'est des sommités qui travaillent sur cette émission-là. Il y a la chaleur humaine, elle est incomparable. Puis, j'ai capoté de faire ça. Puis, j'ai eu une bonne note, hein, 99. Oui. J'ai jamais eu ça à l'école. Ouais. Ah, moi, je savais. Ben,
quand on se fait battre par une amie, c'est moins pire,
exactement.
J'imagine, parce que c'est ton amie.
Ouais, puis tu sais, c'est drôle parce que Raphaël, c'est une amie de... C'est, en fait, Raphaël Roy, elle a remplacé ma femme quand ma femme allait accoucher. Puis elle a pris un congé de maternité. C'est Raphaël qui est venu sur ma tournée Pianoman. Alors, des chanteuses en qui j'ai confiance, que je trouve aussi bonnes que ma femme, il n'y en a pas 20, là, il y en a peu. Raphaël, c'est vraiment une grande surdouée de la musique. Après ça, ben, elle est moins connue du public de notre âge à nous, mais pour les jeunes, elle a des centaines de milliers de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle a des millions de vues sur ses vidéos. Alors, il n'y a pas de hasard. Cette jeune fille-là, elle méritait certainement de gagner Zénith, puis elle mérite d'avoir une carrière. Elle a l'étoffe d'une carrière internationale autant que Charlotte Cardin. Ce que je vous dis, là, c'est vraiment Raphaël Roy. Puis Charlotte vous dirait la même chose. Raphaël Roy, c'est une des plus grandes chanteuses que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Genre, vous n'avez rien vu. C'est vraiment ça. Donc, moi, dans ma tête, c'est comme à gagner Zénith, oui, parce que c'est... Elle est incroyable. Et puis, mais après ça, j'ai gagné aussi, je trouve.
Parce que,
tu sais, je veux dire, les gens me connaissaient, mais là, ils me connaissent plus. L'industrie me connaissait, mais là, ils me connaissent plus. Zénith, je me suis rendu compte que c'est écouté beaucoup par les gens de l'industrie. Les collègues. Fait que je trouve
ça a fait sonner le téléphone.
Hey, boy. Mais oui. Ah ouais, puis tu sais, comme moi, je suis parti en vacances 2 jours, parce que 4 jours avant Zénith, je faisais mon concert avec l'Orchestre symphonique de Michel Legrand, puis ça, c'était le stress. C'est comme s'entraîner pour un triathlon, là. J'avais tellement pratiqué pour cette affaire-là. Donc là, il fallait que je livre ça 4 jours avant Zénith. Fait que tout le stress que j'ai eu dans cette semaine-là, de m'en aller en finale, c'est stressant. Puis tout le monde qui te dit « Hey, tu vas gagner ». C'était pas... Tu sais, moi, j'étais comme... À l'âge que j'ai, avec le métier que j'ai, je le prenais avec humilité. Mais de se faire dire ça tous les jours, partout, ce que j'avais...
T'es conscient qu'il y a une attente?
Oui, c'est ça, exactement. J'ai dit à ma blonde, je suis obligé d'être bon, parce que là, le monde est... T'sais, ils me souhaitent de gagner, mais les gens, mon public, parce que je suis dans les salles depuis plusieurs années, fait que je voyais bien que mon public voulait que je gagne. Là. Après ça, ben la génération de mon public, ils votent moins que la génération de Raphaël.
C'est sûr.
Donc, elle a eu un appui sur le web qui est comme incommensurable. Je ne pourrais pas rien faire contre ça.
Alors, on va parler de ton livre, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais tu as écrit ta bio.
J'ai fait une auto-bio, hein. J'ai sorti ça au mois de novembre. J'en ai amené deux copies, je vais les signer, puis je vais les faire les tirer dans ta gang ici aujourd'hui. Puis ouais, je suis assez fier. Puis tu sais, pourquoi j'ai fait ça rapidement comme ça, c'est parce que j'ai eu une opportunité. C'est une éditrice qui s'appelle Marie-Josée Blanchard, qui faisait sept ans, avant La Voix, elle m'a dit « Faut que tu sortes ton livre. » V'là 7 ans, puis elle m'a jamais lâché. Puis à un moment donné, j'ai dit « Tu sais quoi, je pense que c'est un bon moment. Il m'arrive beaucoup de choses. » Et j'avais des petits problèmes de santé que je suis en train d'essayer de gérer, là, mais inquiet quand même. Donc, je me suis dit « J'attendrai pas de me dire « J'aurais donc dû le faire. » Je l'ai fait. Et puis après ça, ben en fait, on est best-seller déjà. Là. Je suis super content. Ouais. Oui, ça va super bien, mais en même temps, je suis privilégié parce que, étant donné que je fais des shows, 4 shows par semaine.
30 ans après.
Exactement. C'est comme si moi, j'avais un salon du livre à tous les soirs, 4 soirs par semaine. Puis si je faisais des conférences, j'en vendrais encore plus, mais c'est pas ça mon but. C'est pas d'en vendre. C'est vraiment juste que les gens qui veulent savoir plus sur moi, sur Manon, sur mon électrosensibilité, ma condition de santé, sur mon parcours aussi, parce que, tu sais, on parlait de. J'en ai eu des gens bêtes, là. Je règle pas mes comptes là-dedans, mais je raconte certaines.
Tu nommes personne, d'ailleurs. T'en parles de ces gens bêtes-là, ouais. Mais tu nommes personne.
Mais non, ça donne rien. C'est pas de la bonne énergie. Mais après ça, c'est comment je m'en suis relevé, pourquoi que j'ai décidé d'avoir une tête de cochon puis de m'en sortir. Puis après ça, bien, c'est... Il y a des artistes avec qui j'ai travaillé qui m'ont soufflé dans les ailes à certains moments. Stéphane Rousseau, une France d'amour, un Sylvain Cossette. En fait, ceux avec qui j'ai travaillé... Mario Pelcha, Brigitte Boisjoli m'a sauvé la vie. Je l'explique dans le livre. C'est d'ailleurs, j'ai demandé de faire ma préface. Il n'y a pas de hasard. Cette fille-là, c'est...
Est-ce que c'est la plus grosse jambette, celle-là? Je vais la raconter. Là. Tu te pointes dans une conférence de presse où tu es supposé être dans un spectacle multi-artiste.
Ouais.
Et on a oublié de te dire que tu n'es plus dans le spectacle.
Ouais, tu sais, comme...
Mais toi, tu es à la conférence de presse. Tu es là. Ouais. Mais techniquement, ben, en fait, tu n'aurais pas dû être là.
Le vendredi, j'ai eu l'horaire pour la conférence de presse qui était le lundi matin. Puis c'était une grosse affaire. Puis c'était mon premier contrat comme chanteur et non pas comme pianiste accompagnateur. J'avais des albums de chansons originales, mais j'avais pas eu d'opportunité comme ça. Puis c'était une grosse production avec plein de chanteurs connus. On me voulait là-dessus, mais finalement, c'est vraiment la pire embûche de toute ma carrière parce qu'après ça, j'étais tellement... Ben, j'étais tombé en dépression. Là. Je veux dire, tu te fais faire un coup comme ça. Ils ont eu tout le week-end pour m'avertir. Il y a eu des changements. Tu fais plus partie du spectacle.
Ce qui arrive. Ça arrive.
Tout se peut. Puis, tu sais, t'es mal à l'aise. Tu m'envoies un texto ou un email. Puis, je suis capable de comprendre. Mais, c'est pas ça qui s'est passé. C'est que je me suis pointé à la conférence de presse avec ma femme. Puis, j'étais habillé comme Michael Bublé, ma femme comme Grace Kelly. Puis, tu sais, on était tous fiers. Et puis, là, on me dit hey, non, mais, Christian Marc, qu'est-ce que tu fais là? Je suis l'horaire qu'on m'a envoyé. Je suis ici pour la conférence de presse. Où, ah, ben là, ouais, c'est parce qu'on a oublié de t'appeler, mais t'es plus sur le show. Puis là, je dis, OK, mais c'est parce que là, je dis quoi? Moi, il y a des journalistes qui me... T'étais là, il y avait Thérèse Parisien. Et puis, je leur dis quoi? Il dit, oh, tu leur diras qu'on t'avait invité ici, là, puis pour venir voir ça aujourd'hui. J'étais plus capable de parler, j'étais plus capable d'exister. Pendant des semaines, j'étais chez nous. Puis tu sais, j'avais refusé un paquet de contrats pour ça, parce que j'avais comme une quarantaine de soirs de cédulés dans mon horaire. Ça fait que maintenant, tu sais, je me protège, mais c'est comme des coups comme ça. Moi, je me suis promis de non seulement jamais d'en faire aux autres, mais d'essayer d'élever les autres puis de les aider. Si je peux sauver 4-5 ans un jeune, là, sur sa carrière, je vais le faire, là. T'sais, Jonathan Hood qui a fait La Voix, là, moi, ça fait longtemps que je donne des coups de main à ce jeune-là. C'est un fou furieux de talent, ce petit jeune-là. Puis il est beau comme un cœur, puis il est travaillant, puis il veut. Puis quand il a fait La Voix, il s'est rendu en finale. Là, t'sais, c'est un jeune homme de haut niveau. Fait que moi, ça fait longtemps que je dis, Jonathan, il n'y aura pas grand monde qui va t'aider, tu as trop de talent. Fait que moi, je vais t'aider. Fait que c'est ça. À cause que je me suis fait faire ça, moi, j'ai décidé d'être le contraire de tout ça. Dans le fond, ça sert à ça aussi. Là. Mais Brigitte Boisjoli était de cette distribution-là, puis elle a tout vu ce qui s'est passé. Fait qu'elle m'a appelé, elle a dit, je te connais pas beaucoup, mais je sais t'es qui. Puis elle a dit, j'ai quelque chose à te proposer, je peux pas accepter que tu t'es fait faire ça. Elle a dit, j'ai jamais vu ça dans toute ma vie, un coup de poignard comme ça. Fait qu'elle a dit, moi, j'ai envie de t'inviter à faire la première partie de mon show, je vais te donner une tribune d'une demi-heure. Puis après ça, j'aimerais ça que tu sois mon pianiste. Puis elle dit, on aurait tellement de fun ensemble. C'était sa tournée Patti Klein. On a fait des salles pleines à travers le Québec. Et c'est là que j'ai pu semer dans les salles du Québec mon pianoman. C'est pendant la première partie de Brigitte Boisjoli. Alors, elle a changé ma vie parce qu'après ça, les diffuseurs, comme Azimut, tout ça, ils ont commencé à me faire confiance. Puis, engager mon show, malgré si, même si le grand public me connaissait peu. Alors, j'ai eu de la chance. Puis, c'est Brigitte Beaujoli qui a été vraiment la grosse étincelle de tout ça, tu sais. Après ça, j'ai pris cette opportunité-là, puis j'ai décidé de carrer, là. C'est-à-dire, je me suis m'étais monté une demi-heure de show.
Oui.
Mais je voulais sacrer une volée à tout le monde. Je faisais des imitations, je faisais des hits, je faisais toutes sortes de choses. J'étais en mission. J'avais le couteau dans les dents. Puis j'ai dit, c'est...
Ça passe ou ça casse?
Non, mais écoute, quand ça fait longtemps que tu fais ton métier, puis tu sais que tu as un certain talent, puis tu es rendu à une certaine expertise, j'étais confiant. Puis, mais en même temps, ça me prenait une tribune. Brigitte me l'a donné. J'oublierai jamais qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, Brigitte Beaujoli. Ouais.
Je veux te parler de ton électrosensibilité.
Oui.
Parce qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont ça.
Oui.
Mais qui le savent peut-être pas.
Oui.
C'est quoi au juste?
Ben, c'est une intolérance environnementale. C'est vraiment ça. C'est comme ça que c'est diagnostiqué à travers.
Aux ondes?
C'est aux ça? Ondes électromagnétiques, aux champs électriques aussi.
Il y en a un peu des ondes, mettons?
Il y en a partout. T'sais. Écoute. Des antennes cellulaires, là, sur l'île de Montréal, il y en avait 12 000 avant la pandémie. Maintenant, il y en a 60 000. Et c'est des antennes qui sont... Une, c'est pas grave, là. Deux, cinq, six, sept. Mais là, il y en a partout. Il y en a sur des blocs appartements. Il y a des relais 5G sur des blocs appartements. Puis tu verrais pas ça dans les quartiers riches. Hein. Ça me trouble énormément. Tu vois ça sur le bord des autoroutes, ces blocs appartements. Et puis ça, ben, je te dis pas que ça rend tout le monde malade. C'est pas ça. C'est qu'on est confronté à être... exposé aux ondes électromagnétiques alors qu'on n'en a pas nécessairement le désir. Je vais te donner un exemple. Moi, chez moi, il n'y a pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. On est tout câblé. Tout est à fil. Même nos cellulaires. Ça fonctionne super bien. Je suis capable d'avoir une vie normale. Si j'étais à Montréal, je ne pourrais pas parce que je serais en condo ou en appartement. Puis là, même si j'éteins mon Wi-Fi, ben, j'ai celui du voisin, j'ai celui d'en haut, j'ai celui d'en bas. Essaye d'aller leur dire, tu peux-tu éteindre ton Wi-Fi? Je ne suis pas capable de dormir, j'ai des palpitations. Puis des. Mais ben, non. Alors, mais le Wi-Fi, on devrait éteindre ça chaque fois qu'on ne l'utilise pas. Parce que c'est des micro-ondes, c'est des radiofréquences, puis c'est pas bon sur les cellules humaines. C'est écrit dans le manuel d'utilisateur du cellulaire, du routeur de Vidéotron, de Bell, de toutes les compagnies. Et eux autres, ils s'en cachent pas, là. Puis même un cellulaire, t'es même pas supposé de porter ça proche du corps. Moi, je suis toujours en mode avion, mais le Wi-Fi Bluetooth me brûle comme du zona, là. C'est très fort. À Sorel, les antennes cellulaires, il y en a. Il y a des centrales électriques. Puis la ville dans laquelle... comme là, j'ai tout un côté de face un peu semi-paralysé. Là. Puis ça me brûle partout ici, là, tu sais. Fait que... Puis il y a des villes comme ça, Victo. Je tombe sans connaissance dans le centre-ville parce que c'est un projet pilote de Wi-Fi très fort pour les citoyens. Je comprends les besoins. Après ça, en France, ils ont sorti la loi Abeille pour protéger les enfants. Le Wi-Fi est interdit dans les CPE puis dans les écoles parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait 300% d'augmentation de TDAH chez les enfants où il y avait du Wi-Fi dans les écoles. Mais oui, et au Canada, ben il y a un gros déni, on n'en parle pas. Moi, je veux pas faire peur au monde, mais certainement les éduquer qu'on peut avoir une certaine hygiène électromagnétique. Faire attention, pas garder un cellulaire à côté de notre tête toute la nuit, parce que j'étais pas comme ça avant. Tu sais, les compteurs intelligents, c'est une bonne chose pour l'économie d'énergie, mais le compteur, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des données à la journée
tout
longue
le temps, ouais,
par le Wi-Fi, et puis les compteurs sont plus ou moins étanches, parce que c'est des appels d'offres, puis ils vont au plus bas soumissionnaire, donc souvent c'est plus cheap. En Ontario, c'est de meilleure qualité. Au Québec, c'est un peu moins fort. Au Québec, par exemple, tu appelles Hydro-Québec pour dire « Je veux un compteur qui n'est pas Wi-Fi. » Ils viennent t'en installer un. Ils sont super fins. Je veux dire, ils savent. Puis après ça, c'est juste... Il faut reconnaître ces symptômes-là. L'anxiété, l'insomnie, des palpitations, c'est pas nécessairement parce que tu as bu plein de café. Souvent, c'est parce que tu es à côté d'un routeur. Là, tu as des impatiences dans les jambes. Des fois, les gens ne s'aperçoivent pas de ça, mais dans une voiture électrique, moi, je perds connaissance, là. Oui, parce que des fois, ça devient comme un petit micro-ondes. Puis moi, mais moi, je suis fortement intolérant à ça. Après ça, il y a peu de gens qui sont hyper sensibles à ça. Mais par contre, il faut commencer à s'éveiller puis reconnaître que les enfants ont beaucoup changé dans les écoles. Puis il y a peut-être une cause à effet avec les routeurs Wi-Fi dans les classes parce que c'est fort un routeur. Tu n'es pas supposé avoir ça proche de toi là, à journée longue. T'sais, normalement, si tu es chez toi dans ton ordinateur et tu as ton routeur Internet, tu peux éteindre le Wi-Fi et câbler ton ordi. Les jeunes qui ont des consoles de jeu, même chose. Ils veulent le routeur dans la chambre pour que ça soit plus fort à côté de la console, mais ils se mettent en Wi-Fi. Au lieu de le mettre avec un fil, t'as pas de virus, t'as pas de hacking, puis en plus, t'as un signal super fort. Le Wi-Fi, c'est un bel outil, mais c'est pas si nécessaire que ça. C'est de l'Internet sans fil, mais c'est des radiofréquences, puis ça me brûle. C'est ça. Je parle trop, hein?
Non, c'est correct. C'est correct. Est-ce qu'il faut que tu fasses table rase quand tu pars un nouveau pianoman ou tu te permets de prendre des tunes que tu avais dans Pianoman 2? Parce qu'il y a des... Il me semble que Pianoman...
Pianoman 3, il était à 95% tout renouvelé. Okay.
Mais est-ce que Pianoman, c'est comme la chanson au titre du show?
Ben c'est ça. Ben celle-là, au début, on l'avait comme... On pensait peut-être l'enlever. Je ne peux pas. Je peux pas prendre toutes les gens. Ils l'attendent toute la soirée, je le vois. Mais moi, dans ma tête, c'est comme les gens vont être tannés, mais c'est le contraire. C'est vraiment le contraire qui se passe. Puis mon public, souvent, 80% des gens dans les salles, c'est du nouveau monde qui m'ont découvert à Salut, Bonjour, Azine et tout.
Fait qu'ils ont pas vu ceux-là.
Ils ont comme rien vu. Fait que des fois, je me dis, ah, c'est bizarre, je me sens mal de faire Pianoman 3 quand je sais qu'ils ont pas vu le 1 puis le 2. Puis j'avais tellement des numbers forts, tu sais, que je fais plus de Jerry Lee Lewis, je fais plus de Ray Charles, je fais plus de Stevie Wonder. Puis j'ai remplacé ça par des trucs crooner, par du David Foster, par du Meatloaf. Oui, c'est cool, j'ai poussé plus loin mon affaire.
Meatloaf, les tunes durent 12 minutes.
Ben là, ben je fais des... Mais tout ça pour te dire que le c'est ça, c'est que mais c'est vrai que ça me joue tout le temps dans la tête. Puis tu sais, avant, j'imitais Ginette, je faisais un monologue de 10 minutes de Ginette Renault. Parce que ça aussi, ça a été un point de bascule dans ma vie. Et puis, je le comptais dans mon autre tournée, puis les gens riaient. Mais là, je le fais plus dans ce show-là. Fait que les gens me disent « Hey, t'es moins drôle. » Ouais, mais je peux pas raconter l'anecdote toute ma vie non plus, là, sur Ginette, là, tu sais.
« Je comprends, mon beau Luc, que t'as vers moi, t'as amené, maman est fatiguée qu'on parle d'elle.
» Et donc, le Pianoman 3, t'en as pour 2 ans?
Ouais, à peu près 2 ans. Après ça, j'ai un truc qui s'en vient. On va faire une espèce de trilogie. Tu sais que moi, j'ai arrêté de travailler avec mon ami Toyo, qui était mon chef pendant longtemps. Mais écoute, Toyo, il a 68 ans. Alors là, à 5 shows semaine, ça devenait compliqué. Mais là, pour mon truc trilogie, où je vais faire comme un peu un best-of des 3 shows, là. Et c'est parce que là, c'est le public qui le demande. Je veux dire, je ne vais pas dire non à ça. C'est sûr, j'aime trop faire des shows, puis j'aime trop le public, puis j'aime trop ma gang. Mais je vais ramener Toyo par la grande porte, puis il va venir faire des solos comme un artiste invité. Parce que je n'étais pas capable de terminer
mais
ça.
Mais donc, là, il va avoir 70.
Oui, mais je vais lui demander, je vais être moins exigeant. Il ne sera pas là, obligé d'être là toujours. Mais c'est un ami que j'aime trop. Moi, j'aime trop ma gang, puis je ne suis pas capable de me séparer d'eux autres, tu sais. Puis je sais qu'une tournée au Québec, des fois, faut t'en prendre 2 puis 3 pour gagner ta vie. Je sais, c'est quoi? J'étais musicien accompagnateur longtemps. Alors, tu sais, comme mon bassiste, avec qui je suis en amour ben raide, mais lui, il fait Isabelle Boulay aussi. Puis il joue avec la volée de Castor. Puis il est en demande, hein, faut que j'accepte ça. Fait que...
C'est autre chose, la volée de Castor puis Christian Marc-Gendron, quand même.
Oui.
Mais ça fait... On est ailleurs.
Mais ça fait en sorte que, ben, tu vois, la volée de Castor, je les ai eues pour mon show de Saint-Jean parce que je disais, hey, Fredo, tu demanderais-tu à ta gang la volée de Castor qui viennent avec nous autres faire la Saint-Jean-Baptiste, puis ils ont dit oui. Fait que non, j'aime ça, ces bridages-là, j'aime ça.
Mais tu rêvais, toi, de faire un show plus intime? Ça va être oui. Après le best-of?
Non, ça va être, je vais en faire en même temps. Regarde, tu vois, hier, j'étais en show avec Manon, en duo, à la salle Pauline Julien, à Sainte-Geneviève, puis c'était super magique. Et puis je le vois qu'il y a une demande pour ça, tu sais, comme Manon, puis moi, on en fait comme tout le temps, au moins 3-4 shows par mois, à travers Pianoman 3, là. Fait que je le vois qu'il y a une demande pour ça. L'été prochain, je fais 2 spectacles solo à Saint-Jérôme. J'appelle ça Retour aux sources. Puis je fais vraiment qu'est-ce que je faisais dans les piano-bars aux États-Unis. Je vais prendre les demandes spéciales des gens. Fait que j'ai hâte de retourner à ça pour que les gens comprennent comment ça se fait que je... Puis là, je dis ça avec humilité, mais je suis un spécialiste de ce métier-là. Je suis un pianoman de métier. Il n'y en a pas 32, là. C'est quand je veux me faire remplacer, il n'y a pas tant de candidats que ça. Fait que, en fait, il n'y en a pas. Fait que, mais je veux expliquer aux gens d'où ça part, ça. T'sais, c'est vraiment mon l'école à l'américaine où j'ai moi, mon rêve, c'était de devenir Billy Joel. J'ai adoré travailler aux États-Unis. Puis j'ai commencé jeune. Là, mon anglais était à peu près comme celui de Julie Snyder. Là. Je peux te dire que c'était pas si facile.
Elle a gardé le même anglais.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je me suis mis en danger. J'ai fait des bateaux de croisière. J'étais jeune au bout. Puis c'est là que j'ai appris que si je faisais des imitations, je faisais plus de pourboires. Parce qu'un pianoman aux États-Unis, tu as toujours un bol où les gens viennent mettre des demandes spéciales et des pourboires. Puis c'est là que j'ai commencé à m'apercevoir que quand je prenais la voix de Ray Charles, quand je prenais Elton John.
Tu te démarques de ce qui existe déjà.
Mais je sais, puis le tableau est plus fort, puis la nostalgie est plus belle. Les gens, quand tu fais une chanson qu'ils aiment, en plus, tu vas chercher la texture du chanteur, l'image est forte, le souvenir il est fort, puis le moment il est précieux. Fait que, bien, évidemment, je faisais plus de sous. Fait que ça a été un mécanisme là, de dire ah ben si je fais ça, c'est plus rentable et puis tout ça. Puis après ça, ben dans ma tête, je me suis jamais vu comme un imitateur. J'ai fait longtemps Paul Arcand, personne ne me parlait de ça. Mais là, on dirait que ces temps-ci, le monde me demande beaucoup de faire des imitations. J'en fais dans mes shows, c'est sûr. Ça me ferait moi-même. Là.
Christian Mac, merci d'avoir été là.
Ça fait très plaisir, Luc Denoncourt. Je t'adore.
Moi aussi, je t'adore. Je dirais bien, j'invite les gens à aller te voir ce soir, mais il n'y a plus de billets.
Il n'y a plus de billets, mais Sorel, écoute, c'est un petit lieu privilégié. Pour moi, c'est sûr que je vais revenir, peut-être une supplémentaire, mais c'est certainement que je vais revenir avec mes autres propositions de spectacle que vous voir, c'est sûr et certain. Mais oui.
J'invite les gens à se procurer ton livre Pianoman, mon histoire, qui est disponible un peu partout. Merci encore d'avoir été là.
Merci beaucoup, Luc.
Merci aux gens qui se sont déplacés.
Merci à tout le monde.